est temps de passer au film qui a remporté pas moins de 4 Oscars cette semaine. Alors, les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et de la meilleure musique, j'ai nommé La Forme de l'eau. Un fort beau palmarès, un fort beau titre, mais le film vaut-il tout cet engouement? Je suis avec Maë pour en parler. C'est l'histoire d'Elisa, donc une jeune fille muette employée de ménage dans un laboratoire de l'armée américaine où est retenue une mystérieuse créature amphibie et humanoïde trouvée en Amérique du Sud. Elisa développe des sentiments pour cet être qui s'avère être capable de communiquer en langage des signes, d'apprécier la musique et même d'éprouver des émotions. Lorsqu'elle apprend que les jours de la créature sont comptés, Elisa décide de l'aider à s'échapper, bravant le danger et le sinistre colonel Strickland. Alors Maë, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Eh bien, je n'ai pas aimé ce film, ou alors c'est même pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que il m'a laissé complètement vide. Et comme tu disais, Félix, tout à l'heure, un film sur lequel tu vas continuer à penser pendant plusieurs jours, pour moi, c'est un bon film, que ce soit en termes négatifs ou positifs. Alors que là, je suis sortie du cinéma et une minute après, je pensais à autre chose. Et j'ai même peut-être pensé à autre chose pendant le film. Du coup, vraiment, j'ai trouvé qu'il était plat, qu'il y avait du potentiel. Il y avait de quoi faire quelque chose de sympa, mais on s'est contenté de raconter une intrigue somme toute assez simple et assez réductrice, sans creuser, sans aller au fond des personnages, au fond des choses, et du coup bah, ça donne un film qui se laisse voir, mais qui est assez inintéressant, je trouve.
Bon, alors c'est un constat assez sévère. Moi, alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très poétique, très touchant, même si... effectivement, je trouve que le film ne va pas assez au fond des choses, qu'il aurait pu un petit peu plus déployer tout un potentiel que conférait tout le thème subaquatique de la chose, on va dire, et qui était un peu écourté. Parfois, les scènes, on avait envie de dire ah, ça coupe un peu trop vite, quoi. Après, malgré tout, j'ai trouvé que le titre était bien choisi. Enfin, on a quand même plusieurs fois l'impression d'éprouver confusément la forme de l'eau. Mais même si je pense que ça aurait pu, encore une fois, aller plus loin. Par exemple, les gouttes sur la vitre, lorsque elle va vers le laboratoire qui décrivent une espèce de chorégraphie qui rappelle les comédies musicales dont elle est fan. Et puis même tout le début qui nous donne l'impression que cette ville est une espèce d'aquarium, de monde subaquatique dans lequel elle évolue comme une espèce de poisson elle-même dans un bocal. Enfin, j'ai trouvé ça assez joli, quoi.
Mais disons que je trouvais qu'il y avait vraiment du potentiel. Il y avait un petit côté très fantaisiste dans tout l'univers là, qui nous présente surtout au début du film, qui effectivement est très agréable à voir. Moi, ça me faisait penser un peu au truc à la Amélie Poulain où elle a sa petite routine le matin qui est très drôle et qui est pleine de piquant, en fait. Son appartement est fabuleux, il est au-dessus d'un cinéma, donc en fait elle entend les films qui viennent du dessous, et voilà, elle a toujours sa petite routine, elle met son béret contre la vitre le matin, enfin, toutes ces choses-là m'ont beaucoup plu, mais j'aurais aimé qu'elle se déploie tout au long du film pour raconter quelque chose, alors que j'avais l'impression qu'ils ont juste fait un décor qui était chouette, avec un personnage qui était chouette en surface, avec sa vie qui avait l'air intéressante au moins. Et tout ça pour arriver, dès la moitié du film, à déployer une intrigue qui a plus beaucoup d'intérêt. Moi, j'aurais voulu, en fait, que dans ce film, on me raconte comment ce personnage intéressant, assez étrange, un peu fantaisiste, va tomber amoureuse d'une créature qui n'est pas humaine tout de même. Donc, c'était quand même très intéressant. Et voir comment elle va passer, aller au-delà des apparences pour avoir une relation avec cette créature-là. Et je voulais qu'on évacue tout le côté armée américaine, guerre froide, le méchant qui est un grand méchant jusqu'au bout, qui a aucune profondeur, et on essaye de sauver la bestiole. Enfin, la bestiole, c'est un peu dur. Mais je sais pas, je trouve qu'ils sont passés à côté du film, en fait. Alors, même si c'était chouette, effectivement.
Si je devais trouver vraiment un aspect intéressant à ce film, enfin... Là où il y aurait peut-être une touche de profondeur qu'on pourrait lui concéder, ce serait dans le traitement des matières, des peaux et de la non-matière, entre guillemets, que serait l'eau. Paradoxalement, tout paraît artificiel, tout est dans des boîtes, tout paraît très bien construit, comme tu disais, un décor au cordeau, tout un monde recréé, ce général de l'armée américaine qui est un parangon de tout ce qu'on peut imaginer du militaire américain extrêmement psychorigide, et c'est rien de le dire. Et tout ce monde du militaire américain paraît extrêmement artificiel, avec sa Cadillac, on dirait qu'elle est on dirait une espèce d'énorme bonbon, sa maison, la gélatine que sa femme lui sert, etc.
Son caractère.
Son caractère. Et à côté de ça, on a la créature qui est très matérielle, je trouve, même dans le traitement du son, lorsqu'elle cligne des yeux, même le traitement de sa peau, de ses écailles, lorsqu'il la touche. Il y a quelque chose de très très matériel du côté des créatures, et ça, c'est pas que dans ce film de Guillermo del Toro, il me semble. Enfin, il est très adepte du maquillage à la main pour les effets spéciaux, notamment dans le labyrinthe de Pan, la créature, enfin le monstre qui a les yeux à la place des mains, ou dans Crimson Peak, où au lieu de tout retravailler par effets spéciaux, il a choisi de vraiment maquiller des comédiens pour faire des espèces de fantômes un peu sanguinolents, étranges, qui se baladent dans la demeure. Et là, en fait, on a l'impression que c'est du côté des monstres fantastiques que vraiment il y a de la matérialité, qu'il y a un ancrage dans le réel, alors que du côté du monstre humain, entre guillemets, c'est-à-dire le colonel dont j'ai oublié le nom, eh bien, en fait, tout paraît totalement faux. D'ailleurs, sa femme lui sert l'espèce de gélatine comme ça, verte, dont le peintre Gilles, qui est le voisin de Elisa, a peint la peinture, puisqu'il n'arrive pas à passer à la photographie. Il est contraint de faire des pubs à la main, parce que comme s'il n'arrivait pas à capter ces choses qui sont finalement des espèces de faux-semblants qui parcourent cette société et qui finalement paraissent moins réels. Enfin, les objets de consommation paraissent moins réels qu'une créature dont on sait pertinemment qu'elle provient d'une toute une mythologie profondément cinématographique qui est la créature du lagon noir, quoi.
Mais je trouve qu'on n'y croit pas, justement, parce que c'est le personnage du méchant est aussi artificiel, aussi inhumain. Enfin, inhumain dans le sens... voilà, c'est un stéréotype sur pattes, ce personnage. Eh bien, du coup, on n'y croit pas, mais du coup, toute la réflexion qu'il veut développer sur le fait qu'il y ait un méchant, qui en fait, le vrai méchant, c'est l'humain, et c'est pas le vrai monstre, c'est l'humain, et pas le monstre qui a l'apparence d'un monstre, eh bien, en fait, on n'y réfléchit presque pas, parce qu'on a affaire à une caricature de méchant, mais une caricature à la Disney, en fait, hein. C'est vraiment le méchant, voilà, c'est le méchant, jusque dans sa famille, jusque dans... qui n'a aucune pensée positive, qui n'a aucune histoire, aucune profondeur, enfin... Et du coup, en fait, on n'y croit pas, ce personnage, parce qu'en fait, ça n'existe pas, les méchants comme ça, même dans la vraie vie, enfin, je sais pas, c'est jamais aussi entier et aussi caricatural, et du coup... En fait, j'avais l'impression, pendant tout ce film, de voir un film Disney, un peu, c'était un conte qui avait, du coup... très peu de profondeur, et même il y a des contes qui ont plus de profondeur que ça.
Après, je me demande dans quelle mesure Guillermo del Toro assume pas le côté d'être du côté du conte dans tous ses films. Enfin, c'est vraiment son dada, on va dire. Enfin, dans le labyrinthe de Pan, il assume le côté conte. Là aussi, à la fin, tout le parallèle, enfin même dès le début, il y a tout le parallèle avec la petite sirène qui est fait, qui est totalement assumé. Donc je me demande dans quelle mesure le méchant absolument diabolique est entièrement méchant. Enfin voilà, peut-être qu'il faut le prendre comme il est. Bon, après, je comprends qu'il ne puisse pas plaire.
Mais... Après, c'est sûr qu'il assume le côté conte, hein, ne serait-ce que dans la manière dont il parle, le narrateur parle au début de l'histoire. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la chute de ce film ? Enfin, je veux dire, où est la morale ? Où est l'issue de la réflexion ? Parce que pour moi, ça finit, mais... la conclusion aussi m'a beaucoup déçue, c'est plat, comment elle se finit cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire du film, de tout, c'est tellement manichéen ce qu'il nous propose.
Oui, alors il me semble que c'est manichéen, mais après il me semble aussi qu'il y a cette espèce de fin, encore une fois la Guillermo del Toro un peu doux-amère, où en fait on se dit tout finit mal, mais en y croyant très fort, on peut imaginer que ça finit pas si mal que ça. Enfin, pour ceux qui ont vu le labyrinthe de Pan... la petite fille meurt, tuée par les franquistes, pardon, et elle semble se réveiller dans une espèce de royaume imaginaire qu'elle a poursuivi pendant tout le film. Et en fait, on comprend très bien qu'elle ne se réveille absolument pas, mais que cette fin, c'est un petit peu pour panser nos blessures à nous, pour nous dire, voilà, quelque part, elle est morte dans son monde et elle est morte heureuse. Enfin, c'est toujours ces fins un peu doux-amères, extrêmement nostalgiques de Guillermo del Toro, et qui parcourt tout le film, cette espèce d'esthétique de la nostalgie, moi, je dirais. Enfin, d'un monde qui est en train de disparaître, de se fondre dans... Et qu'il n'y a que certaines personnes qui arrivent encore à toucher du doigt, c'est-à-dire les enfants, les gens un peu marginaux, etc. Mais que ce monde est perpétuellement en train de se défaire, sous les coups de boutoir de la société de consommation, en l'occurrence dans ce film, ou alors sous les coups de boutoir du franquisme... dans le labyrinthe de Pan.
Mais après, je sais pas. Hein. Je sais pas, moi ça m'a pas fait ressentir ça, tu vois. Enfin, intellectuellement, je suis là, bon, voilà, il a voulu faire ça, mais moi, j'ai rien ressenti. Et peut-être, qu'est-ce que t'as pensé des... J'inverse les rôles, mais qu'est-ce que t'as pensé des scènes où il y a plusieurs scènes, comme c'est tout un univers aquatique, il y a plusieurs scènes qui se passent dans l'eau avec ce côté très flottant.
Eh bien, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une inversion, enfin une subversion en tout cas de l'iconographie, on va dire, classique de la créature du lac noir, quoi, où il y avait cette espèce de perversité de la créature dans le film original, où il y a toute cette scène dont on se souvient tous, où on voit la jeune scientifique qui nage à la surface pendant que nous, on adopte le point de vue de la créature, qui l'épie entre les algues comme ça, et qui ressemble à une espèce de... Enfin, ça nous fait ressentir tout le potentiel menaçant de cette créature, alors que là, l'eau est utilisée vraiment pour créer toute une érotique, mais une érotique douce, enfin extrêmement enveloppante, par opposition, encore une fois, à la sexualité du méchant qui est totalement malaisante et totalement bon, caricaturale, encore une fois. Et du coup, il m'a semblé que là, en tout cas, l'eau, et même renforcée par le titre, c'est-à-dire la forme de l'eau, il y avait vraiment quelque chose de très doux dans cet élément, et que c'était... quelque chose qui justement enveloppait les choses et les êtres de manière extrêmement douce.
Moi, je trouvais que l'idée était là, que c'était, on voyait que c'était aussi fait pour que ce soit esthétique, parce que des plans sous l'eau, on imagine tout le potentiel que ça peut avoir, mais que encore là aussi, je retrouvais une esthétique qui était assez basique en fait, de plans sous
Oui,
l'eau, un peu
là où je te rejoins,
flottant.
c'est qu'effectivement, je trouve que c'était peut-être un peu convenu et
Ouais.
que effectivement. Comme je l'ai dit au début, c'est un peu, voilà, ça aurait pu être un peu plus poussé, qu'on aurait pu assister à des choses un peu plus
Oui.
osées, quoi, de
Mais
la
disons qu'il y
part
avait ce côté qui était
de la
tellement
réalisation.
esthétisant que du coup, c'était trop beau pour qu'on rentre vraiment dans une vraie esthétique. Si ça avait eu un petit côté un peu plus réel, un peu plus concret en fait, au lieu de garder cette sorte de distance où on est en train de parler juste d'un conte, eh ben peut-être que je sais pas, il y aurait eu quelque chose de plus intéressant, alors que là c'est trop lisse en fait, je trouve, comme esthétique.
Bah vraiment la concrétude, je l'ai retrouvée quand même dans certaines séquences, bah notamment, bon, spoiler peut-être, bon, pas un très gros spoiler en tout cas, lorsqu'il dévore la tête du chat, ou avec tout ce jeu avec enfin, la créature, ou tout ce jeu où le méchant joue avec ses doigts qui sont en pleine décomposition, enfin. Quand même, il y a. Et puis, même la première tâche qu'on confie aux deux femmes de ménage, c'est de nettoyer tout le sang qui a été déversé dans le labo, etc. Enfin, il y a quand même des moments d'extrême concrétude, quoi.
Voilà, mais quand même des moments convenus, parce que là tu parles des deux femmes de ménage. Tiens, on en parle de la pote femme de ménage, Black, qui est là juste la bonne grosse rigolote, et qui sert à rien,
On dirait
et dont les
Marie.
blagues sont celles qu'on peut entendre dans des mauvais films ou dans des mauvais feuilletons. Oui, aussi les dialogues, enfin bref.
Ouais, alors moi j'ai trouvé peut-être un peu. Bon, oui, maintenant que tu le dis, elle est peut-être un peu convenue aussi, l'amie. Bon, après, j'ai pas prêté une attention folle, c'est vrai, et peut-être que c'est là le défaut du film de pas la mettre suffisamment en valeur. Après, c'est vrai que voilà, l'actrice centrale, ça reste. Enfin, le rôle central, ça reste Elisa. Et
Oui,
son
bien
amie,
sûr,
c'est peut-être un peu pour apporter un peu de légèreté à tout ça, effectivement. Mais bon, je suis pas. Enfin, je suis pas une défenseuse absolument. De ce rôle de l'ami, effectivement, qui peut-être se révèle un peu cliché, effectivement. Même si elle était pressante, enfin, elle a été nommée pour le rôle de. Enfin, le second rôle.
Il se trouve que cette actrice, je crois, a joué dans d'autres films
Oui, elle a joué dans
bien
énormément.
mieux.
Oui.
Enfin, bien mieux.
Bon, donc, du coup, je ne te demande pas si tu recommandes ce film ou pas.
Non mais c'est pas désagréable quand on y est, mais bon, de là à dire que c'est immanquable.
Alors moi je dirais pas que c'est immanquable,
Après, il a eu 4 Oscars.
oui, mais bon c'est pas moi qui décerne les Oscars. Et
Hein.
donc je ne dirais pas qu'il est immanquable, il est très agréable à regarder, enfin je l'ai trouvé assez poétique et voilà c'est un bon Guillermo del Toro même si c'est sûr il ne m'a pas transcendé.